Confluent, avec Catherine Ego et Mathieu Lavigne.
Bonjour Catherine, cette semaine nous rencontrons un pionnier de la sémiologie musicale, Jean-Jacques Nattier.
Bonjour Mathieu. Le musicologue et ethnomusicologue Jean-Jacques Nattier s'intéresse depuis le début des années 70 à la musique inuite. Il publiait récemment aux presses de l'Université de Montréal un ouvrage colossal intitulé « La musique qui vient du froid, art, chant et danse des Inuits » et qui synthétise presque un demi-siècle de travaux sur le célèbre chant de gorge et sur les danses à tambour, ainsi que les chants qui leur sont associés. Fruit d'un long et patient travail de recherche, mais aussi d'édition, cet ouvrage érudit et passionné s'accompagne de nombreuses ressources en ligne constituées d'enregistrements sonores, de vidéos et de documents d'archives. Le livre compte pas moins de 200 illustrations, présentant notamment de splendides œuvres d'art inuites, sculptures, dessins, estampes.
Dans cette entrevue, Jean-Jacques Nattier partage avec nous sa passion pour les arts du cercle circumpolaire qu'il relie à la vision du monde singulière des Inuits. Il exprime aussi sa profonde admiration envers l'inventivité, la virtuosité et la persévérance des hommes et des femmes Inuits qui ont su enrichir, transmettre et constamment renouveler leur fabuleux patrimoine musical au fil des siècles. Jean-Jacques Nattier est membre de l'Ordre national du Québec, de l'Ordre du Canada et de la Société royale du Canada. Avec la musique qui vient du froid, art, chant et danse des Inuits, il a notamment remporté le prix Charles Cros, le prix du livre France Musique Claude Samuel et le prix Opus du meilleur livre sur la musique 2023.
Jean-Jacques Nattier, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux presses de l'Université de Montréal la musique qui vient du froid, art, chant et danse des Inuits. Vous n'êtes pas Inuit?
Non, je ne suis pas un Inuk.
D'où venez-vous?
Je suis né à Amiens, dans le nord de la France, et je suis arrivé au Québec en 1970. Je me suis rapproché de la faculté de musique où j'avais envie de travailler. Et dès que ça a été en route, lorsqu'ils m'ont engagé, je voulais que mes recherches portent non seulement sur les musiques occidentales classiques, Wagner, Debussy, Varèse, Boulez, etc., mais je tenais à travailler aussi à inclure dans mes investigations les musiques autochtones. J'ai eu la chance de rencontrer un très grand anthropologue qui s'appelait Hassen Baliksi, qui avait écrit un très très beau livre sur une ethnie particulière des Inuits, la musique des Netsilik. Et il m'a invité chez lui et il m'a fait entendre ce qui est maintenant connu sous le nom de chant de gorge. Et j'ai trouvé ça tellement fascinant au point de vue sonore et au point de vue musical que j'ai décidé de constituer une équipe de recherche pour aller sur le terrain, faire des enregistrements, poser des questions, essayer de comprendre ce qu'étaient les chants de gorge dans la culture des Inuits. J'ai eu trois étudiants qui sont allés faire très sérieusement des études d'anthropologie à Laval pour connaître la culture des Inuits avant de se rendre sur le terrain et d'y faire des enregistrements. Alors, ils sont allés essentiellement au Nunavik et dans le pourtour du Nunavik. Et moi-même, j'y suis allé quelques années plus tard dans le nord du Nunavut, un des derniers villages avant le pôle, pour voir s'il y avait des chants de gorge, mais surtout pour étudier la danse à tambour. Les chants de danse à tambour ne sont pas présents au Nunavik. Par contre, ils existent de l'Alaska jusqu'au Groenland. Et c'est ce qui explique que le livre soit divisé en différentes sections géographiques et culturelles.
Parce que la musique à laquelle vous intéressez, c'est celle de tout le cercle circumpolaire, c'est-à-dire Nunavik, Nunavut, Alaska, Sibérie Groenland.
Sibérie, un petit peu moins, j'y fais allusion, mais je ne l'ai pas étudié en détail. Je vous dis tout de suite pourquoi. Bon, il y a 1500 Inuits à peu près en Sibérie. Et pour pouvoir l'étudier sérieusement, étant donné toute la littérature anthropologique, ethnographique qui existe en Russie, il faudrait que je lise le russe, ce qui n'est pas le cas. Il y en avait bien assez de me concentrer sur, bien sûr, le Nunavik, le Nunavut, mais y ajouter aussi, dans cette perspective circumpolaire, comme vous le dites très bien, de l'Alaska jusqu'au Groenland.
Comment se fait-il qu'on puisse parler de musique inuite alors que les Inuits sont répartis sur un tel territoire ? Est-ce que ça veut dire qu'ils se transmettent entre eux des pratiques ?
Ah oui, bien sûr. Comme vous le savez, les Inuits sont venus de la Sibérie et du nord de l'Asie. Donc, ils ont traversé le détroit de Bering et cette population s'est répandue de l'Alaska jusqu'au Groenland. Avec des transformations de leurs pratiques linguistiques. Mmh. Par exemple, un Groenlandais ne comprend pas quelqu'un de l'Alaska. Donc, on pouvait s'interroger aussi sur le fait qu'il y a eu une transmission des pratiques musicales des peuples sibériens vers le nord de l'Amérique du Nord, mais avec des variantes et des différences dans l'Alaska, dans la dizaine d'ethnies différentes des Inuits qu'il y a au Canada, et puis au Groenland également. Il se fait que j'avais entendu dire qu'il y avait eu du chant de gorge chez un peuple qui s'appelle les Aïnous. Vous observerez que le mot Aïnou est assez proche du mot Inuit, les deux veulent dire les hommes. Mmh. Et je me suis organisé une mission pour aller voir au Japon, au nord du Japon, d'enregistrer, de voir les chants de gorge de ces populations. Je suis arrivé à la conclusion que les musiques des Inuits avaient à peu près au moins 1000 ans d'âge, en raison du moment où ils ont traversé le détroit de Bering pour venir au Canada. Mmh. Ils ont apporté avec eux, ils sont des porteurs de culture, ils ont apporté avec eux les cultures musicales de l'Asie, du nord de l'Asie, avec les transformations que je peux constater. Ce qui me fait dire, de façon humoristique, mais je crois vrai au point de vue scientifique, que les musiques des Inuits sont les plus anciennes musiques canadiennes.
Disons deux mots de votre livre, c'est un objet splendide, évidemment c'est le fruit de vos recherches depuis le début de votre carrière,
oui.
Et puis c'est un objet magnifique.
Je me suis amusé à collectionner, dans la mesure de mes moyens, des œuvres qui illustraient comment la musique était représentée dans les arts plastiques inuits. Mmh. Il y a essentiellement deux grands genres, il y a des estampes et il y a des sculptures.
Et donc ces objets-là et bien d'autres sont reproduits dans le livre.
Alors, le point de départ, si vous voulez, c'était ma collection. Mmh. Mais du coup, je me suis mis à collectionner. Vous avez une armoire entière derrière vous, dans laquelle se trouve une collection de livres sur l'art inuit de toutes les régions. J'ai plongé là-dedans et j'ai fait une sélection des œuvres que je voulais utiliser pour illustrer le propos ethnomusicologique de l'analyse et de la présentation des genres musicaux qui était l'objectif de mon bouquin.
Et le livre s'accompagne aussi d'un site web,
oui,
des presses de l'Université, oui, de Montréal, qui donne accès à beaucoup de musique, des vidéos, des articles.
Absolument. En même temps que je collectionnais ces œuvres, je faisais une sélection de ce que l'on peut trouver dans les disques, mmh, dans les enregistrements de mon équipe de recherche. Mais il y a aussi tout ce qu'on peut trouver. Par exemple, rien que pour les jeux de gorge, il y a une cinquantaine de disques, mmh, qui existent. Donc, j'ai fait cette sélection. Et ce qui est formidable, c'est que le directeur des presses de l'Université de Montréal, Patrick Poirier, a été emballé, je peux dire, par, disons, l'ampleur du propos, l'ampleur de la description de la musique inuite, les liens possibles avec les œuvres qu'on avait sous les yeux ou qu'on peut aller entendre sur le site web qui est rattaché au bouquin. Et c'est ce qui fait que grâce à l'extraordinaire compétence des gens des presses de l'université, ça a donné ce qui est non seulement un essai ethnomusicologique et iconographique sur la culture inuite, mais un livre d'art.
Mmh,
et
voilà.
Voilà.
Et d'une réalisation magnifique, papier glacé, la reproduction des estampes est éblouissante.
Hein. Absolument.
Ouais. Jean-Jacques Nattier, votre livre s'appelle « La musique qui vient du froid oui. » parce que la musique des Inuits ne se pense pas en dehors de l'environnement dans lequel ils vivent.
Oui.
Et notamment le froid. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Oui. Vous faites allusion à Chilawat Cloutier qui a parlé oui. du droit au froid.
Oui.
En quoi est-ce que le froid oriente une musique ?
Je donnerai un exemple justement à propos des chants de gorge. C'est que les chants de gorge sont joués, sont exécutés par deux femmes qui sont l'une en face de l'autre.
Mmh.
Leurs bouches doivent être relativement proches l'une de l'autre de façon à créer un sentiment de fusion sonore. Mais cette exécution du chant de gorge est accompagnée de gestes. Elles dansent pratiquement sur place, où elles se tiennent par les épaules, etc. Ce qui est une façon, effectivement, de se réchauffer.
Mmh.
Hein? Alors, le lien avec le froid, il faut faire intervenir l'écologie. À l'origine, je dis bien à l'origine, ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'origine, les femmes qui faisaient le chant de gorge, elles le faisaient pour agir sur l'âme des animaux, pour qu'ils aient la gentillesse de se laisser attraper par les chasseurs. Autrement dit, elles exécutaient le chant de gorge en lien avec la pratique des hommes pour aller chasser, ce qui permet à la survivance des Inuits dans ce climat extrêmement difficile.
Ce climat extrêmement difficile qui a eu forcément des incidences sur les instruments qui ont pu être inventés.
Il y a un instrument fondamental chez les Inuits, c'est le tambour.
Mmh.
Alors, de la même façon que dans le chant de gorge, il y a des mouvements qui permettent aux femmes de se réchauffer, si je peux dire. Le chant de danse à tambour, il est pratiqué lorsqu'il y a des grands rassemblements d'Inuits dans un grand igloo, ce que l'on appelle le kagi, dans lequel il y a des compétitions entre compositeurs-chanteurs des chants de danse à tambour, et ça consiste pour le danseur à faire pivoter un grand tambour qui fait presque un mètre de diamètre, donc qui est assez fatigant et lourd à porter. Il est frappé de la main droite par une mayoche. Donc c'est ça le lien de ce type de musique avec un instrument qui a cette fonction spécifique d'intervenir pour s'adresser à l'âme des animaux aussi.
Comme les chants de gorge.
Comme les chants de gorge. Donc le lien écologique, si vous voulez, de la musique des Inuits, il est très fort. Et dans les deux cas, les femmes font une sorte de jeu dans lequel la première qui dérape dans cette relation avec sa copine, bon, elle a perdu le jeu. Du côté des hommes, il faut aussi que le chant de danse à tambour soit le plus long possible. Dans les deux cas, ce qui est en jeu, c'est l'endurance.
Mmh.
Et l'endurance, eh bien, c'est aussi une catégorie fondamentale pour les Inuits, puisqu'il faut endurer les conditions climatiques, les conditions d'existence, etc. Donc la musique y participe, elle la reflète, elle est en étroite relation avec elle.
Donc pour les deux grands ensembles que vous distinguez, les chants de gorge et les chants de danse à tambour, il y a une dimension écologique, comme vous dites,
oui.
un lien avec les animaux, et spirituel.
Oui.
Est-ce qu'on fait de la musique pour d'autres raisons chez les Inuits ?
Pour se distraire. C'est-à-dire que ces chants de danse à tambour qui vont être joués dans des conditions cérémonielles, ben, il faut bien s'entraîner à les chanter, donc on va les exécuter aussi dans des conditions domestiques à l'intérieur de l'igloo familial, au niveau de la cellule familiale. Les chants de gorge, lorsque les maris vont à la chasse, ils étaient exécutés pour agir sur l'esprit des animaux, mais c'était aussi une distraction pour amuser les enfants.
Mmh. Est-ce qu'il y a aussi dans les chants de danse à tambour une dimension, on pourrait dire, juridique, c'est-à-dire une volonté de résoudre les conflits ou de porter un jugement sur une infraction qui aurait pu être commise ?
Alors, elle est fondamentale. C'est ce que l'on appelle dans la culture occidentale les dimensions juridiques ordaliques. Ça existait au Moyen-Âge, par exemple, dans les tournois.
Mmh.
Il y avait l'affrontement entre deux personnes, en particulier s'il y avait un conflit entre ces deux personnes, on considérait que celui qui avait été battu, qui avait été renversé du cheval, éventuellement qui avait été tué, c'était la voix de Dieu qui se manifestait, et celui qui était le gagnant était considéré comme celui qui avait raison dans le conflit entre les deux personnes. Bien souvent, chez les Inuits, lorsqu'il y avait, alors ça pouvait être des conflits d'ordre domestique, à propos de vol, pour résoudre toutes les espèces de conflits, on organisait des séances de chant, de danse à tambour, et celui qui était jugé comme le meilleur dans les performances de danse à tambour, était considéré comme celui qui avait raison dans le conflit en question. Alors, un des critères, précisément à cause de l'endurance dont on a parlé tout à l'heure, il fallait que le chant dure le plus longtemps possible. Et l'autre dimension, c'était l'intérêt et le contenu des chants. Pourquoi ? Parce que les chants étaient composés par le danseur, je vous ai dit tout à l'heure, était danseur, compositeur, chanteur. Il avait composé le texte et la musique, la mélodie des chants de danse à tambour, très souvent pendant qu'il était à la chasse. Et beaucoup de ces chants de danse à tambour racontent des exploits de chasse ou des incidents qui se sont passés, l'homme qui est attaqué par un ours ou qui réussit à tuer un ours, le fait de bien attraper le phoque en lançant une lance à travers son trou pour le toucher. Namareda Oivaka Atoenjo Kadoenjo Peloxanexima Nakoko Mexabotame Namareda Oivaka.
Vous avez parlé à plusieurs reprises de la musique des Inuits au passé. La musique que vous avez étudiée, est-ce qu'elle vit encore ? Est-ce qu'elle se développe encore ?
Toute musique évolue dans le temps. Alors, c'est pour ça, tout à l'heure, j'insistais sur le fait que la fonction religieuse, en quelque sorte, des chants de gorge, de s'adresser à l'esprit des animaux pour qu'ils se fassent bien attraper par les maris à la chasse, c'était quelque chose d'ancien, dans la mesure où ça correspondait à ce que l'on appelle la période chamanique. Pourquoi ? Parce que si on s'adresse à l'esprit des animaux, c'est une dimension essentielle de la conception du chamanisme qui est d'agir sur les âmes, sur les esprits, par le biais de chants ou par le respect de tabous ou des choses comme ça. Bien entendu, lorsque les missionnaires ont vu le lien qu'il pouvait y avoir entre danse à tambour et chant de gorge avec le chamanisme, ils les ont combattus. Par exemple, au nord de la terre de Baffin, les missionnaires qui étaient là, à Point d'Inlet, à Igloolik, etc., ils encourageaient les Inuits à chanter les chants de danse à tambour, mais à remplacer le texte qui se trouvait dedans par des sujets plus acceptables du point de vue de la liturgie catholique ou protestante.
Et aujourd'hui, est-ce que cette musique-là est encore réinventée ?
Alors, elle est réinventée en sens que l'autre transformation, c'est la technologie. C'est le fait qu'il y a des chaînes de radio propres à chaque village sur lesquelles on diffuse de la musique, mais les gens possèdent des magnétophones, ils possèdent des lecteurs de CD, etc. Et la jeune génération, évidemment, s'est mise à se procurer, à écouter les musiques occidentales qui touchent les jeunes, la musique pop, le rock. Et c'est ça qui est intéressant. L'utilisation des musiques traditionnelles, de la danse à tambour et les chants de gorge, ils vont les combiner avec des éléments de la musique pop occidentale. Donc la musique inuite s'est transformée en utilisant certaines composantes des chants traditionnels ou des jeux traditionnels et en les combinant, en faisant quelque chose d'original. Mais vous avez ça dans toutes les cultures du monde.
Donc ce n'est pas une musique passéiste, la musique des Inuits. Les chants de gorge et les chants de danse
au tambour. Non, mais si vous parlez avec des jeunes filles de 18 ou 20 ans qui font du chant de gorge, elles ont conscience qu'elles vont faire des exécutions du chant traditionnel. C'est le mot qu'elles vont utiliser. Et puis, dans certaines performances, y compris à Montréal, bien souvent, quand il y a des performances de musiciennes inuites, elles vont faire du chant de gorge et puis expliquer d'ailleurs au public ce que c'est, et puis faire des performances où les procédés des chants de gorge sont combinés avec ceux de la musique pop occidentale.
Comment se transmet cette musique-là ?
Alors, là encore, il faut faire la différence entre les temps anciens et les temps modernes. Dans les temps anciens, c'est tout simplement que les mamans, elles apprennent la musique à leurs enfants. Mmh. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'elles l'apprennent aussi bien aux garçons et aux filles. Mmh. Mais dans le cas du chant de gorge, lorsque les petits garçons commencent à accompagner leur père pour aller à la chasse, ils arrêtent. Et c'est ce qui explique que les chants de gorge soient un genre quasi exclusivement féminin. Donc ça, c'est le mode d'apprentissage traditionnel. Et puis, il y a l'apprentissage par le biais des enregistrements, des vidéos, etc. C'est-à-dire les moyens modernes.
Pour les chants de danse au tambour, est-ce que c'était aussi les femmes qui initiaient les petits garçons ?
Le processus était le suivant. L'homme composait son chant pendant qu'il était à la chasse, d'où la grande présence de récits de chasse dans les chants de danse à tambour. Ensuite, il l'apprenait à sa femme. Et sa femme l'apprenait à l'ensemble des femmes de la communauté. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il va y avoir l'exécution du chant de tel ou tel danseur dans l'igloo, et puis que la communauté est rassemblée pour assister à ces performances de chant de danse à tambour, les femmes sont assises dans le pourtour de l'igloo, et lorsque l'un des hommes s'avance pour danser et chanter, sa femme, qui a appris son chant à l'ensemble des femmes de la communauté, ce sont elles qui vont chanter le chant du danseur. Il y a une division sexuelle entre les hommes et les femmes du point de vue de l'apprentissage et de la transmission et de l'exécution. Voilà. Mais on va voir beaucoup plus rarement une femme exécuter la danse avec le tambour. Mmh. Leur fonction, c'est... Je crois que je dis dans mon livre qu'elles sont en quelque sorte la mémoire musicale des Inuits, parce que c'est elles qui ont appris de leur mari les chants de danse à tambour pour les retransmettre à l'ensemble des femmes de la communauté. Voilà.
Donc les hommes ne chantent jamais, finalement ?
Si, étant donné qu'il y a souvent une exécution des chants de danse à tambour en privé, ils peuvent très bien le chanter dans l'espace privé de l'igloo, oui. Mm-hmm. Dans mes enregistrements, j'ai énormément de chants faits par les hommes.
Mm-hmm. Vous dites une chose étonnante dans votre livre, c'est qu'il n'existe pas de mot en Inuktitut pour dire musique.
Comme dans la plupart des musiques autochtones.
Mais il existe des mots pour désigner les genres musicaux.
Absolument. Absolument. Mais ça, c'est pas du tout une spécificité des Inuits. Je crois me rappeler que je cite l'observation, et il a été le premier à le dire, d'un des grands ethnomusicologues de la francophonie, Gilbert Rouget, qui dit « La plupart du temps, en dehors de la culture occidentale, il n'y a pas de mots pour dire musique, mais les genres sont tous très très bien identifiés avec des mots spécifiques. » Alors, le mot pizirk pour désigner la danse à tambour, le mot katajark pour désigner les chants de gorge, voilà.
Qu'est-ce que ça nous apprend, ça ? Et d'une manière générale, qu'est-ce que la musique des Inuits nous apprend ? Que notre musique ne nous apprend pas, ou que notre musique ne dit pas de nous ?
Il y a d'abord la spécificité sonore des chants de gorge qui est extraordinaire. Mm-hmm. Chacune des femmes produit une syllabe, qui est constitué d'un son grave et d'un son aigu, sa copine va reprendre ce motif avec un décalage, là aussi avec le son grave et le son aigu. Le résultat, et ça nous a pris énormément de temps pour le comprendre, c'est une chaîne de son aigu et une chaîne de son grave, mais dont chacun des sons graves et aigus sont produits alternativement par chacune des femmes. Donc ça, c'est un mode de production musicale qui est absolument, sans jeu de mots, inouï.
Vous avez été un des pionniers de l'étude de la musique des Inuits. Quand vous avez commencé vos recherches, vous faisiez comment ? Vous arriviez avec une enregistreuse et puis vous enregistriez ? Puis après, vous essayez de comprendre ce qui se passait ?
Oui, c'est-à-dire c'est un processus en continuité. C'est-à-dire que mes collaborateurs et moi-même, on est allés sur le terrain, on crée les conditions pour se présenter au conseil de village, dire et à quelles conditions et à quel prix on veut enregistrer les personnes, les hommes et les femmes qui font de la musique. Généralement, ils vous indiquent toujours ceux que eux-mêmes considèrent comme les meilleurs musiciens du village en question. on les enregistre. Moi, je faisais d'assez longues séances d'enregistrement. Puis, au fur et à mesure, mes collègues et moi-même, eh bien, on apprenait, au fond, à comprendre le mode de fonctionnement de ces musiques. Puis après, quand on rentre chez soi, on fait des transcriptions avec des notes de musique, avec des symboles, pour pouvoir analyser et comprendre comment ces musiques fonctionnent.
Certains autochtones deviennent peut-être un peu plus prudents par rapport à la diffusion de leur patrimoine culturel à l'extérieur des communautés. On parle même d'extractivisme culturel, de pillage culturel. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça pour la musique des Inuits ?
Le problème ne se posait pas à l'époque où nous avons fait nos terrains dans les années 70. Il y a eu quelquefois des tensions, pas dans mon équipe, mais avec certaines personnes qui, par exemple, ne payaient pas convenablement les gens qu'ils enregistraient, etc., ou qui ne respectaient pas les conditions qui étaient données pour faire les enregistrements. Aujourd'hui, il y a le concept d'appropriation culturelle qui a émergé à la suite de certaines considérations théâtrales en particulier. Je crois qu'une des preuves que mon bouquin n'a pas commis le crime d'appropriation culturelle, c'est qu'il a été préfacé par une représentante remarquable de la culture inuite qui s'appelle Lisa Kiluki Koporkualuk, qui est la représentante du Canada dans le Conseil circumpolaire inuit. Et elle a lu le livre de façon extraordinaire, elle l'a lu ligne à ligne pendant un an, en faisant des observations, des critiques. Donc tout est dans la façon de faire les choses, dans le respect, et de prendre les moyens de faire contrôler ce que l'on dit par les autochtones. C'est exactement ce que j'ai fait en m'adressant à une représentante tout à fait éminente de sa propre culture.
Jean-Jacques Nattier, merci.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Immense merci à l'ethnomusicologue Jean-Jacques Nattier d'avoir partagé avec nous la profonde admiration qu'il porte aux Inuits et à leurs arts.
L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission chez nous. Vous voulez en savoir plus? Visitez sans tarder notre site web www.missionchezneux.com. À la semaine prochaine, Catherine.
À la semaine prochaine, Mathieu. D'ici là, nous restons à l'écoute de la formidable musique des Inuits et bien sûr de Radio VM et Radio Galilée.